RFI, il est 21h30 à Paris, 19h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et c'est avec vous, Zéphirin Quadio. Bonsoir.
Bonsoir Alban, bonsoir à toutes et à tous. La visite du chef de la junte malienne en Russie, déplacement du général Assimi Goïta qui intervient dans un contexte de recrudescence des attaques djihadistes au Mali. Nous irons ensuite au Niger où des dizaines de civils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche au cours d'une attaque de présumés djihadistes dans la zone dite des trois frontières. Et puis en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara entretient le suspense sur sa participation à la présidentielle d'octobre prochain. Le chef de l'État se laisse encore quelques jours pour prendre sa décision. Mais avant de développer ces titres, je vous rappelle la principale information de cette soirée. La riposte de l'Iran aux frappes américaines sur des sites nucléaires ce week-end. Téhéran a ciblé une base militaire américaine au Qatar ce lundi. Doha dit avoir intercepté avec succès des missiles et se réserve le droit de répondre à ces attaques. Alors pourquoi avoir visé le Qatar? Évidemment, il y a l'importance de cette base américaine. Mais ce pourrait être également pour l'Iran une manière d'envoyer un message aux pays du Golfe. Écoutez l'analyse de Camille Lons, spécialiste de la région au Conseil européen des relations internationales.
C'est encore difficile de savoir pour le moment exactement quel est le calcul iranien. Est-ce que c'est aussi une façon indirectement de faire pression sur ces pays-là sans forcément nécessairement chercher à faire beaucoup de dégâts dans ces pays-là, mais en tout cas faire pression pour qu'eux-mêmes fassent pression davantage sur Trump et sur Israël pour tenter de limiter l'escalade. Ça se déroule en ce moment sur le Qatar parce que c'est là qu'une base américaine est implantée, mais c'est aussi un signal au reste de la région que quelque part ils ne sont pas complètement protégés et hors d'atteinte.
Voilà. Propos accueillis par Daniel Valo. C'est un déplacement qui intervient dans un contexte de recrudescence des attaques djihadistes au Mali. Arrivé dimanche à Moscou, le chef de la junte au pouvoir à Bamako a rencontré ce lundi au Kremlin le président Vladimir Poutine. Cette rencontre s'est notamment soldée par la signature de documents visant à resserrer les liens économiques entre Moscou et Bamako et la coopération dans le domaine du nucléaire civil, selon le Kremlin. Avec l'arrivée de l'Africa Corps qui succède à Wagner, c'est donc une officialisation des liens militaires entre les deux pays. RFI à Moscou, Anissa El-Jabri.
À son arrivée sur le sol russe, le général Assimi Goïta déclarait « Je suis convaincu que cette visite sera l'occasion de renforcer nos relations », citant la défense, les transports et l'économie comme secteurs prometteurs de coopération dans cet ordre. Et de fait, le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, a rencontré en parallèle son homologue malien, le général Sadio Camara, une rencontre qui a donné lieu, et c'est rare, à une communication plus importante qu'habituellement en Russie. Sur la chaîne Telegram du ministère de la Défense, on a ainsi pu voir Andrei Belousov en uniforme déclarer en face de son homologue malien « La priorité de notre partenariat est d'obtenir des résultats concrets en matière de renforcement de la sécurité et de la souveraineté. Cette approche-là est la clé de tout succès et de toute victoire. » Fin de citation. Le ministère de la Défense russe assume donc désormais officiellement et pleinement son rôle au Mali. D'autres annonces sont sans doute à venir. La Russie et le Mali ayant déjà annoncé lancer une coopération dans le domaine du nucléaire civil. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Et retour à présent sur l'attaque de Manda au Niger. Elle s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche dans ce village du département de Terra, région de Tillaberi, dans le sud-ouest du pays. De sources locales, le bilan s'élève désormais à 71 morts et une vingtaine de blessés, tous civils. Une attaque dont le mode opératoire rappelle celle de Fambita en mars dernier. Le récit de Magali Lagrange.
Les fidèles sont réunis devant la mosquée de Manda pour écouter des prêches samedi soir quand des hommes armés font irruption dans le village à la nuit tombée. De sources locales, les victimes se comptent par dizaines. Les blessés, plus d'une vingtaine, sont actuellement soignés dans plusieurs centres de santé de la zone, l'un d'eux évacué vers Niamey pour être pris en charge. Le village de Manda est situé dans le département de Terra, zone des trois frontières dans laquelle le groupe État islamique au Sahel est actif. Il est rattaché à la commune de Gorwol. Un appel du conseil communal de la jeunesse de cette localité circule, demandant des contributions de toute nature pour venir en aide aux rescapés et et aux blessés de cette attaque. C'est la deuxième fois cette année qu'un rassemblement de fidèles est visé dans cette région du Niger. Le mode opératoire de l'attaque de Manda rappelle celle de Fambita. Courant mars, la mosquée de cette localité du Tillabéri avait été encerclée par des hommes armés au moment de la grande prière. 44 civils avaient été tués selon le bilan officiel. 3 jours de deuil national avaient alors été décrétés.
Magali Lagrange, ira ou n'ira pas en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a été désigné ce week-end candidat du RHDP pour la présidentielle d'octobre prochain. Réuni par dizaines de milliers en congrès au stade Ebempé d'Abidjan, le parti présidentiel a fait le choix du maintien au pouvoir du chef de l'État pour un 4e mandat. Âgé de 83 ans, Alassane Ouattara a répondu qu'il rendrait sa décision dans les jours à venir. Un scénario très similaire à celui de la présidentielle de 2020. Mais cette fois-ci, du côté de ses adversaires politiques, tous ne croient pas qu'il répondra favorablement à ses militants. C'est le cas de Pascal Affine-Guessant, ancien Premier ministre, de Laurent Gbagbo, président du FPI et lui-même candidat.
Monsieur Ouattara sait que la Côte d'Ivoire n'est pas la propriété exclusive du RHDP et ne sert pas uniquement les intérêts des cadres du RHDP, leur maintien au pouvoir. Il y a d'autres enjeux très importants. Il faut qu'ils prennent en compte les autres dimensions de la situation nationale, notamment la situation au niveau de l'opposition politique qui est vent debout pour se battre afin qu'il n'ait pas un 4e mandat, du contexte international qui n'est pas en sa faveur, du contexte sous-régional qui est risqué si M. Ouattara est candidat. Et donc, lorsqu'il pèse tout cela, il est condamné à trouver une solution qui est la solution du retrait, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, nous ne sommes plus en 2020. Le contexte a totalement changé, aussi bien à l'intérieur que dans la sous-région. En 2020, il avait encore quelques cartes en main. Mais aujourd'hui, il a épuisé toutes ses cartes et tout ce qui lui reste, c'est le retrait.
Un propos recueilli par Sidi Yansané au Bénin, le nom du candidat soutenu par le pouvoir pour l'élection présidentielle d'avril 2026, sera connu le 12 octobre prochain. C'est ce qu'indique ce lundi le porte-parole du gouvernement. Le président Patrice Talon a plusieurs fois affirmé qu'il ne souhaitait pas être candidat à un 3e mandat lors de l'élection prévue le 12 avril 2026. Jusqu'à présent, aucun nom n'a officiellement été avancé. Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016, arrivera en 2026 au terme de son second mandat, le maximum autorisé par la Constitution. La question de sa succession a été relancée en septembre 2024 lorsqu'un de ses amis intimes, Olivier Bocco, a été arrêté pour tentative de coup d'État avec l'ex-ministre des Sports, Oswald Omeking. La cybercriminalité en hausse en Afrique, c'est ce que pointe Interpol dans son rapport d'évaluation des cybermenaces pour 2025. Les arnaques en ligne, les rançongiciels et la compromission de courriers professionnels sont parmi les cybercrimes les plus répandus et les pays manquent d'infrastructures informatiques essentielles pour parvenir à lutter efficacement contre ces fléaux. Explication Pierre Firsion.
La cybercriminalité représente plus de 30% de l'ensemble des crimes signalés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Elle apparaît en très forte augmentation dans certains pays, exemple en Zambie, où les arnaques en ligne ont explosé de 3000% entre 2023 et 2024. Parmi les escroqueries les plus utilisées, le phishing ou l'hameçonnage arrive en tête. Cette arnaque qui consiste à obtenir les données personnelles d'un internaute en se faisant passer pour un organisme reconnu représente 34% de tous les incidents cyber détectés à travers l'Afrique. Autre fléau en augmentation, les rançongiciels, ces logiciels malveillants qui bloquent l'accès à l'ordinateur ou à des fichiers en les cryptant. Près de 18 000 attaques de ce type ont été détectées l'an passé en Égypte et plus de 12 000 en Afrique du Sud. Interpol note également que la compromission de courriels professionnels a fortement augmenté, tout comme les cas de sextorsion numérique, du chantage en ligne via des images sexuellement explicites. Ces images peuvent être authentiques ou générées par intelligence artificielle, précise le rapport. Voilà pourquoi Neil Jetton, le directeur de la cybercriminalité d'Interpol, alerte. La fraude par intelligence artificielle existe, estime-t-il, une attention urgente.
Une explication signée Pierre Firsion. Et puis au Kenya, 3 policiers poursuivis pour meurtre après la mort en détention d'un jeune enseignant. Il avait été arrêté pour avoir publié sur les réseaux sociaux des messages accusant de corruption un cadre de la police. Il l'a également emmené à Nairobi, la capitale, à des centaines de kilomètres de son domicile. Sa mort avait initialement été présentée comme un suicide par la police. Plusieurs légistes avaient ensuite invalidé cette thèse. La police a depuis annoncé la suspension de 5 policiers. Notez par ailleurs que des manifestations organisées à Nairobi et dans d'autres villes du pays contre les violences policières ont elles-mêmes été réprimées avec violence. Il est 21h40 alors que vous écoutez Radio France Internationale.